Voilà, vendredi 17 juillet 2020, vous écoutez Radio Ndekiluka, il est 13h, c'est l'heure de suivre le journal. Le journal de la mi-journée, une présentation de Inès Langopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée, les titres. Célébration ce 17 juillet de la Journée mondiale de la justice internationale. Cette année, elle est commémorée autour du thème « Résilience dans nos efforts pour bâtir un monde plus juste ». Le procès de Patrice Edouard Nguessona et Alfred Yekatom Rombo fixé au 9 février prochain devant la Cour pénale internationale. Vous allez suivre les réactions de leurs avocats. Et puis la dégradation de certaines avenues à Bangui ne facilite pas la libre circulation des biens et des personnes en cette saison pluvieuse. Reportage à suivre dans ce journal. Football, Real Madrid, sacré champion d'Espagne. Le club de la capitale remporte son 34e titre.
Inès, nous ouvrons ce journal avec cette commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la justice internationale.
Oui, Verdiane, cette journée marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998. Le statut de Rome est le traité fondateur de la Cour pénale internationale qui vise à protéger les personnes contre les crimes du génocide, les crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le thème retenu cette année est résilience dans nos efforts pour bâtir un monde plus juste. Marie-Edith Douzima est avocate et experte en justice internationale.
Il s'agit de la journée de la justice pénale internationale. C'est une journée qui marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome, qui a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome, d'où le nom de statut de Rome. Et donc c'est le traité fondateur donc, qui crée la Cour pénale internationale. Alors l'idée de la création de la Cour pénale internationale a vu le jour suite au constat fait par les États parties à ce statut de ce que au cours du XXe siècle, des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, dans le monde ont été victimes d'atrocités, donc de crimes graves, qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde.
Justement, Inès, en parlant de la justice internationale, la date du procès de Alfred Yekatom Rombo et Patrice Edouard Nguessona est finalement connue.
Les audiences vont commencer le 9 février 2021, date rendue publique hier. Les réactions des défenses n'ont pas tardé. Jean-Eudes Bagali.
En détention depuis presque deux ans, Patrice Edouard Nguessona et Alfred Yekatom Rombo connaissent désormais la date du début de leur procès. Dans son communiqué du 16 juillet, la Cour pénale internationale CPI fixe la date au 9 février 2021. Elle indique que cette date a été fixée par la chambre de première instance après avoir examiné les observations respectives des parties et participants, les droits des accusés, le temps nécessaire pour divulguer les preuves et la protection des victimes et des témoins. Gervain Opportin-Bauda, chargé de communication du bureau de la CPI en Centrafrique.
Avant cette date, nous allons mener des activités de sensibilisation au travers les radios, la télévision, la presse écrite et également à travers certaines rencontres individuelles. Mais comme vous le savez, nous sommes dans le contexte du coronavirus. Cela entraînerait justement des modifications dans notre calendrier d'activités normales. Donc, nous allons mener des activités en tenant compte justement des mesures barrières.
La réaction des défenses n'a pas tardé au lendemain de la publication de cette date. Pour le conseil de Nguessona, c'est une déception car son client doit encore attendre 6 mois en prison. Du côté des avocats de Yekatom, malgré que la date du procès est fixée, il demande toujours son transfèrement devant les juridictions nationales. Mylène Dimitri, conseil principal.
Les autorités centrafricaines doivent quand même répondre pour le 3 août prochain, indépendamment de l'ordonnance fixant la date de procès. J'insiste sur le fait que, nonobstant l'opinion des autorités centrafricaines sur l'innocence ou la culpabilité de M. Rombo Yekatom, ça ne devrait avoir aucune influence sur leur capacité à juger M. Rombo Yekatom en Centrafrique.
Alfred Yekatom Rombo et Patrice Edouard Nguessona sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en RCA entre 2013 et 2014.
Merci Jean-Eudes Bagali.
Ici à Bangui, l'association du barreau américain, à travers son programme de clinique juridique, veut promouvoir un état de droit en Centrafrique.
Elle a organisé une session d'échange et relative mardi dernier avec les leaders religieux, les autorités politico-administratives, les représentants de la société civile autour du thème « La clinique juridique comme outil de promotion des droits de l'homme et l'accès à la justice ». Maître Dimitri Bagaza, avocat au bureau américain, précise les enjeux de cet échange au micro de Rolf Stelton.
Nous les avons réunis pour leur donner des informations en ce qui concerne ce que nous faisons à ABA, Association de Barreaux Américains, ce que nous faisons. Parce que nous faisons tellement beaucoup de choses au profit des vulnérables, de la communauté vulnérable, l'accès à la justice pour tous. Mais beaucoup des gens ne connaissent pas, donc nous avons réfléchi pour comment grandir cette information au niveau de la population. C'est comme ça qu'on les a réunis. Toute la RCA n'est pas encore libérée, mais nous faisons de notre mieux au maximum. Il y a Bangui, il y a Bimbo, il y a Boa, il y a Berberati, et il y a des cliniques itinérantes, comme on dit, cliniques mobiles. Lorsqu'il y a des audiences, il y a des avocats qui se déplacent pour aller plaider de certaines personnes dans les villes où il n'y a pas la clinique, mais ils se déplacent ponctuellement pour aller examiner les cas et plaider pour ces cas-là. Et ça ne concerne pas seulement les affaires civiles, nous prenons toutes les affaires jusqu'à la session criminelle. Par exemple, le cas des viols, les cas qui nécessitent une session criminelle, nous faisons les suivis de nos bénéficiaires au niveau de l'enquête, au niveau de l'instruction, jusqu'à l'audience à la session criminelle.
La dégradation de certaines avenues de Bangui ne facilite pas la libre circulation des biens et des personnes en cette saison pluvieuse.
Les usagers tirent la sonnette d'alarme et appellent le ministère des Travaux publics à faire un travail de fond sur ces voies qui n'honorent pas la capitale. Rolf Steve Doumialeux, reportage.
Circuler sur l'avenue des Martyrs est un véritable parcours de combattants pour de nombreux Bangouisois. En cette saison pluvieuse, les chantiers de colmatage ne tiennent plus. En l'absence des caniveaux, les eaux de pluie débordent souvent et engloutissent le tronçon. Les trous profonds compliquent la fluidité de la circulation. Les automobilistes roulent de gauche à droite et font beaucoup de manœuvres au volant pour éviter les nids de poules. Même calvaire du côté de l'avenue Kongowara. Le constat est accablant de Pétévo au Pékaneuf sur la route de Mbaïki. Ce tronçon, souvent réhabilité en morceaux, se dégrade davantage. De l'avis de nombreux passants, les opérations de colmatage ne peuvent plus apporter de solution à ce stade de dégradation.
Ah non, cette route ne reflète pas la capitale. Regardez vous-même ces trous profonds. Les accidents sont très fréquents sur cette avenue. Les véhicules s'entremêlent avec les motos. Je me demande si les autorités regardent ce qui se passe.
Imaginez-vous un peu la route qui mène à partir de 8e jusqu'à l'axe à report, ça ne donne même pas. C'est par cette route que les étrangers viennent, mais ça ne donne pas. Je ne sais pas comment décrire en tout cas.
L'avenue de France dans le 3e arrondissement n'est pas épargnée. C'est un calvaire pour les transporteurs, surtout quand il pleut. Arthur, conducteur de moto.
Je ne sais vraiment plus quoi dire de l'état de ces routes. Il n'y a pas de conduit d'eau, les routes sont inondées et se dégradent de jour en jour. C'est vraiment honteux.
Malgré les récurrents cas d'accidents sur ces avenues, ce Bangouisois pense que les autorités déploient des efforts pour réhabiliter les routes de la capitale.
Auparavant, ces routes étaient dans un état pitoyable. Mais cette année, je constate que le gouvernement déploie des efforts pour réhabiliter les routes dans la capitale. Petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre.
Pourquoi les autorités en charge de ce domaine ne font pas un travail de fond sur ces avenues? Les réponses manquent à l'appel des Bangouisois.
Chapitre coronavirus dans ce journal, Inès, le ministère de la Santé publique a annoncé hier 11 nouveaux cas.
À ce jour, la République centrafricaine compte 4373 malades de Covid-19 avec 1265 guéris et 53 décès. Jusqu'à hier, le nombre des cas dans le monde était plus de 13 575 000. L'Afrique comptait plus de 644 000 patients avec plus de 14 000 décès et plus de 333 000 guérisons.
Et la suite de ce journal nous conduit à Birao dans la Vakaga.
La composante UN Police de la MINUSCA remit mercredi dernier des kits d'hygiène contre le coronavirus aux forces de sécurité et de l'intérieur. Correspondance de Ramadan Abdelkader.
C'est une première pour les FSI déployés à Birao, à plus de 1200 km de Bangui, de bénéficier des kits de protection contre le coronavirus. Et donc est composé de 4 dispositifs de lavage des mains, 21 paquets de savon linge, 288 masques ou cache-nez, 20 gilets fleurissants pour gendarmes et police, et une banderole sur laquelle on écrit des messages au respect des mesures barrières. Idriss Younous, capitaine commandant la compagnie de gendarmerie, remercie la composante UN Police MINUSCA pour ses gestes faits à l'endroit des FSI. Ces matériels de protection vont aider les FSI de ne pas s'exposer à la pandémie, mais aussi de sensibiliser la population sur les dangers que représente cette maladie qui fait des ravages à travers le monde. Depuis lors, aucun cas de coronavirus n'a été détecté à Birao, malgré l'inobservation des mesures barrières par la majorité des personnes. Ramadan Abdelkader, Birao, Radio Ndekeluka.
L'Agence nationale de l'eau et assainissement ANUEA fait de l'eau un élément clé pour la lutte contre le Covid-19 en ce moment à Bangui.
Elle a placé des dispositifs d'eau chlorée avec du savon dans 33 sites publics de la capitale pour le lavage régulier des mains.
Hors de nos frontières, Inès, le nouveau gouvernement tchadien suscite des interrogations.
La nouvelle équipe passe de 31 à 35 membres, dont 39 ministres et 6 secrétaires d'État. Pour la première fois, 9 femmes entrent dans le gouvernement. La secrétaire générale du Conseil national des femmes du Tchad félicite cette avancée et invite les femmes à rester vigilantes pour la suite de la lutte.
Au Gabon, le président Ali Bongo a nommé par décret une femme au poste du Premier ministre.
Rose Christiane Osukaka Raponda, c'est la toute première femme promue à ce poste 60 ans après l'indépendance du pays. Sa principale mission à la tête du gouvernement va être de relancer l'économie et peut-être de préparer la prochaine élection présidentielle prévue en 2023. La page sport, c'est une présentation de Bienvenue Bello, bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Football international centrafricain Dertin Amorin sera bientôt libéré.
Il est emprisonné depuis 3 mois à Lombarino au Gabon à la suite d'une altercation avec une Gabonaise. Dertin Amorin recouvrera la liberté le 24 juillet prochain, selon la dernière décision des autorités judiciaires de Lombarino. Information confirmée par le collectif de la diaspora centrafricaine au Gabon, selon Teji Sakano, coordonnateur de ce collectif. Le fauve doit également payer une pénalité de 1 500 000 francs CFA. Il a été joint au téléphone depuis Libreville par Rolf Steve Domialeux.
Quand le cas a eu lieu hier et la délibération est qu'il sera éventuellement libéré le 24, ce fait 3 mois d'emprisonnement ferme soit totalement épuisé. Et à cela s'ajoute quelques pénalités financières qu'il doit verser à l'État gabonais parce que le problème a eu lieu pendant que la loi du confinement était annoncée dans les médias gabonais, donc personne n'avait le droit de se retrouver hors de sa barrière. Et il y a une pénalité aussi qui doit être versée à l'endroit de la victime.
Les dates officielles pour le déroulement de la Coupe du monde de football FIFA Qatar 2022 désormais disponibles.
La compétition se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. La phase de poule s'étalera sur 12 jours seulement avec 4 matchs par pays. Le Qatar accueillera le monde en hiver, une grande première pour cette compétition qui va durer 4 semaines.
Le Real de Madrid, sacré champion d'Espagne pour la 34e fois de son histoire.
Grâce à sa victoire hier sur Villarreal 2-1, un doublé de Karim Benzema a offert le sacre à Zinedine Zidane et ses coéquipiers. Le rival FC Barcelone a perdu à domicile devant Osasuna 2-1. Il reste une seule journée pour que le championnat espagnol puisse prendre fin.
Merci à vous, bienvenue Bello. C'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndiki Luka. Restez branchés pour la version en langue nationale.